Bonjour Monsieur Angèle Villard, nous souhaitons vous interroger aujourd'hui sur votre parcours et vos engagements pluriels.
Mes engagements sur les événements qui se sont déroulés depuis la perte de la République espagnole. Parce que c'est là que moi j'étais à ce moment-là étudiant et c'est à ce moment-là que mon activité a commencé à se dérouler parce qu'évidemment, nous, on n'était pas assez nombreux pour vaincre les militaires et les pays qui se sont soulevés contre l'Espagne. Alors évidemment, il y avait les Italiens, il y avait les Allemands, il y avait les Portugais, il y avait les Marocains, et puis il y avait tous les fascistes espagnols du sud de l'Espagne, qui étaient les plus près du Maroc. Et alors évidemment, nous, à ce moment-là, on était à l'école. Moi, je faisais le baccalauréat, et j'ai continué à faire le baccalauréat. Comme nous étions d'une famille nombreuse, mon père, qui était un administrateur de PTT, il a dit, le gouvernement vient d'envoyer une bourse d'études, ça sera pour celui, une bourse pour les 8. Alors c'est le 8e qui aura les meilleures notes, qui aura la bourse pour faire des études. Et bon, j'ai eu la chance que c'est moi qui l'ai eu, parce que mon frère aîné, il avait eu un accident en traversant un fleuve pour aller manger des mûres de l'autre côté. Il en a mangé beaucoup, elle s'était chaude, et quand il est revenu, il s'est congestionné, il a coulé, il a fallu le sortir à moitié noyé, il a passé quatre mois sans reprendre connaissance et tout ça, et après, il a eu une déficience de paroles. Alors, comme il ne pouvait pas suivre les études comme il faut, et bien, mon père a dit, bien, bon, ça ne fait rien, ça sera pour toi, et lui, on verra ce que l'on fait après pour lui trouver une place. Et c'est démarré comme ça. Alors lui, par contre, c'était un garçon, c'était l'aîné. Moi, j'étais à ce moment-là assez peureux des bagarres et tout ça. Je préférais faire du sport et faire des trucs comme ça. Et puis lui, il préférait aller à la guerre. Et comme c'était la guerre contre la République, il est parti en Catalogne, à Barcelone. Il s'est formé militaire et il est parti à Madrid pour défendre Madrid. Et nous, à ce moment-là, on a commencé à se séparer. Alors mon père, après, c'était un dirigeant politique du PSUC, du Parti Socialiste Unifié de Catalogne. Et bon, nous étions comme ça, tous éparpillés. Ma mère, parce qu'on était 8 familles, et ma mère était malade. Et alors évidemment, ma mère vint à décéder, dans cette occasion, des poumons. Et moi, je me suis trouvé tout seul à la maison avec mes petits frères. Et alors, évidemment, les gens de la mairie, du Guadalajara, ils ont dit non, 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 les gosses, il faut les envoyer dans une colonie. Et si on peut les envoyer en France, beaucoup mieux, parce qu'ils seront déjà protégés contre les bombardements et tout ça. Et ils ont envoyé à Tossa de Mar, et de Tossa de Mar, moi, je ne les ai plus revus. Alors, évidemment, quand la guerre a avancé, déjà vers la France, parce que ça a été en 36, mais nous en 38, on avait déjà presque perdu toute l'Espagne. Hein. Et puis on devait passer la frontière. Et quand on est arrivé là, il y avait les Français qui étaient venus de la Brigade Internationale pour nous donner un coup de main. Et la plupart de ces Français ne parlaient pas espagnol, ils parlaient français. Et alors évidemment, quand ils ont vu que moi, je parlais français puisque je l'avais appris au baccalauréat, et bien, ils m'ont pris comme interprète. Le commandant, quand il a vu que je me promenais dans la ville tout seul, parce que j'étais tout seul à la maison, il a dit, qu'est-ce que tu traînes dans la ville comme ça, qu'il peut t'arriver quelque chose? J'ai dit, il ne m'arrive rien, je suis assez grand pour me défendre. À 17 ans, alors il dit, oui mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, moi je ne fais rien à personne. Je vais à la maison, je mange, je me couche, puis ça y est, et puis j'attends. Il dit, ah non, 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 non. Écoute, tu vas venir avec moi, moi je suis dans la place à la maison, et comme j'ai entendu que tu parlais français, et que moi j'ai beaucoup de français qui viennent et on ne s'entend pas, tu vas venir là, tu vas me servir d'interprète. Et alors c'est arrivé que je me suis mis dans la maison comme le fils, parce que je ne voyais pas mon père, Quand ma mère est décédée, j'ai vu pour la dernière fois ma sœur qui est venue et moi pour l'enterrer. Et puis après, on s'est séparés. Et puis voilà. Et moi, j'étais dans l'armée jusqu'à la fin de la guerre, quand le commandant a dit, écoute, la guerre est finie. c'était en 38, et à fin de 38, et nous on a fini la guerre en février 39. Alors évidemment, à ce moment-là, il me dit, tu parles français, bien, alors on va faire un convoi d'autobus avec les femmes des officiers et les enfants, et tu seras le responsable de ce convoi. Comme ça, tu peux t'en aller, puisque moi j'étais quand même militaire, j'avais le carnet militaire des chauffeurs et d'interprètes. Et alors j'ai dit oui, mais moi je ne sais pas où est ma famille. Moi je ne peux pas m'en aller d'Espagne sans savoir où sont ma famille, mes frères et mes soeurs. Il dit, ne t'inquiète pas, s'ils sont en France on les trouvera. Mais quand tu arrives là-bas, tu offres les autobus, et en échange des autobus, tu demandes qu'on te garde. Et à ce moment-là, tu restes en France. Bon, alors nous partons comme ça, et sur la route, il y a eu un mitraillage de l'aviation allemande, et c'était plein de morts. Et nous, nos camions étaient dans un tournant, et il y avait un promontoire, ça veut dire que la route était dans ce tournant caché. Alors ils étaient là, nous on est descendus des autobus, on s'est jeté par terre dans la... Et puis quand ils sont passés, j'ai dit bon ben allez, tout le monde aux autobus et en route vers la France. Et quand on a quitté le tournant, il y avait tout plein de police, la police de la route, qui s'appelait les gendarmes routiers, quoi. Et alors ils disaient, oui, à qui sont ces autobus? J'ai dit, ces autobus sont à moi. Tout ça pour toi? J'ai dit, oui, tout ça pour moi. J'ai dit, t'as les credentials? Oui, je les ai. Alors j'ai porté les papiers et dit, ah bon, là c'est différent. Alors tiens, donne ta credentiale, elle apprend, il la déchire, tu vois, il n'y a plus de credentials. Alors comme ici, qui commande c'est nous, alors vous allez vous en aller vers la montagne, vers la France, et les autobus vont aller amener les blessés à Barcelone. Et alors voilà, c'est parti comme ça. Et nous on est parti par la montagne, pour atterrir en France. Et évidemment, on a mis un jour et demi, mais la nuit, on ne pouvait pas marcher dans la montagne parce qu'il y avait des bandits qui attaquaient les femmes parce qu'elles avaient toutes des bijoux et tout ça dans les sacs et tout ça. Alors évidemment, la nuit, il ne faut pas marcher. Hein. Vous mettez dans une auberge de bétail avec les vergers et puis le lendemain matin, de bonne heure, vous repartirez vers la France. Demain à 4 heures, vous serez en France. Et c'est passé comme ça. Et arrivé en bas, alors, il y avait... on parquait les bétails pour la transhumance. Ils ont dit, bon, de ce côté, on mettra les femmes et les enfants qui iront vers le nord de la France. Et puis, de l'autre côté, les hommes qui vont vers le camp de concentration. Alors, évidemment, moi, je me suis trouvé là... étant militaire, on nous sépare, et puis j'ai dit, moi non, moi j'avais dit à mon commandant que je devais les protéger, et puis tout ça, j'ai dit, moi je ne peux pas faire ça. Alors évidemment, moi, je parlais très bien le français, mais je faisais semblant de ne pas le connaître. Alors il faisait que dire, la barre, ça veut dire se laver. Me laver. Militaire, là-bas. Non, là-bas. Non, assieds-toi là. Alors, j'étais assis, et puis, ils prenaient les femmes et les enfants, ils mettaient dans un enclos pour l'amener vers le nord. Et moi, je les vois passer vers la gare. Alors, j'ai dit, ça y est, c'est foutu. Hein, comment je vais faire? Alors, il y a des infirmières qui étaient là avec Secours Rouge International, et ils disaient, est-ce qu'il y a des blessés là? Et personne ne répondait, moi non plus, parce que je dis, si je me vends qu'ils savent que je parle français, alors là de suite je vais être embarqué. Alors moi je me dis, comment on va faire, Corinne, comment on va faire? Et ils disaient, alors, mais écoute, prends un par un et puis on va, parce que quand on descendait la montagne avec les pics, on saignait. On s'est gratigné tout ça, et avec la neige, ça faisait des croûtes noires, ça faisait très 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 vilain. Alors en bas, tout cela, on les lavait, puis on les mettait et on les soignait. Et alors moi, quand je voyais qu'il parlait comme ça, je me mets debout, je pousse un cri, et je me laisse tomber en arrière. Alors évidemment, je me suis laissé tomber à l'arrière sur l'herbe, et puis il dit, qu'est-ce qu'il y a ? Alors il vient, il dit, qu'est-ce qu'il y a ? Je faisais une andouille, et puis il dit, bon, allez, attrape-les, on va le laver, on va voir ce qu'il y a, et puis on verra comment... Alors il dit, bien, lavez ça. Bon, lavez. Je rentre là-bas, et quand il est là-bas, il dit, mais c'est pas un homme, il n'a même pas de barbe. C'est pas un homme, c'est un gosse. Ça. Alors, moi, je dis, non, je suis un soldat. Je dis, mais un soldat français, toi? Tu es avec les Espagnols et tu parles français comme ça? J'ai dit, oui, avec vous, je n'ai pas peur, mais avec les soldats, ils voulaient m'envoyer au camp de concentration. Il dit, ah non, ne t'inquiète pas, on va te soigner. Alors ils m'ont lavé, ils m'ont mis du mercure comme beaucoup de coton, et j'étais comme l'homme invisible. Alors il dit, ne t'inquiète pas, on a téléphoné à l'école, et tu vas partir à Orléans. Et toutes les personnes qui sont parties se trouvent à cette école, et on va t'amener faire une radio, et au lieu d'aller à la radio, on t'amènera à l'école. Et c'est comme ça que j'ai pris le train pour... Et je retrouve la femme de mon commandant et sa fille. Et on est allé à Orléans. Et à Orléans, ils nous ont reçus à la place Martois où il y a Jeanne d'Arc. Et puis il y avait un théâtre. Et dans le théâtre, ils nous ont logés. Alors, en bas, on mangeait. Et dans le balcon, on couchait tous ensemble, séparés avec des draps et des cordes, comme ça. Et alors, évidemment, la femme du commandant, ça ne lui plaissait pas beaucoup parce qu'il y avait une promiscuité un peu lourde. Il dit, écoute, maintenant, tu es bien ici. Tu vas avoir des nouvelles de ton père et de tes frères et sœurs. Et moi, je n'ai pas de nouvelles de mon mari. Alors moi, je m'en vais vers Barcelone avec la petite. J'ai dit, comme vous voudrez, Mathilde, mais moi, comme il m'avait dit que je m'occupe de vous, moi, tant que vous, quand vous le voudrez, vous êtes... mettre de votre destin et puis on verra. Alors, bon, elle est partie vers Barcelone et moi je suis resté là. Et à ce moment-là, on nous a employés pour faire un abri pour les réfugiés espagnols sur la route des Tampes à la sortie d'Orléans, sur la route d'Orléans, en face des camps d'aviation. Et il y avait une verrerie qui ne fonctionnait plus. Alors il dit, ça, on va faire de ça un abri pour vous, mais il va falloir nous aider. Alors nous, les jeunes de 14, 17 ans, tout ça, on les aidait, puis on a fait des baraquements, tout ça. On était 450 de femmes et d'enfants. Et on est resté là jusqu'à ce que les Allemands ont envahi la France et qu'ils sont rentrés. Alors le directeur de la colonie d'Orléans, c'était un juif, et Blagon, David Blagon, il s'appelait, il dit, écoute, les Allemands vont arriver vite, parce qu'ils vont vite, et ils n'ont que deux ennemis. Les rouges espagnols et les juifs. Alors, qui t'attrape toi ou qui m'attrape à moi, nous irons tous en Allemagne dans les camps de concentration. Alors moi, je vais me débrouiller pour aller, parce qu'il avait un bateau, un château dans la Loire. Il était très riche. Je vais m'arranger pour me cacher. Et puis toi, si tu peux t'en aller vers Perpignan, tu t'en vas en Espagne, parce que maintenant, l'Espagne est dans un demi, Franco déjà, et c'est fini la guerre avec Franco. C'est lui qui commande, mais tu te débrouilleras. Bon, j'ai dit, moi, c'est pas possible. Moi, mon père était dans le camp de concentration, mon frère aîné aussi, moi, je peux pas m'en aller, moi, je vais vers le camp de concentration. Il dit, non, va vers Perpignan, mais reste dans la ville, ne va pas dans le camp de concentration. Je suis allé à Perpignan, et évidemment, on m'a dit que mon père était à l'hôpital de Perpignan pour une opération. Et alors, l'opération, c'était l'hôpital Saint-Louis, c'était un hôpital, un ancien couvent, qui était l'hôpital des camps de concentration pour les Espagnols républicains. Et mon père était là-bas. Alors moi, je me suis présenté là-bas, et puis bon, je frappe, le gendarme m'ouvre, il dit, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que vous voulez faire là? J'ai dit, je viens voir mon père. J'ai dit, ton père? Qui est ton père? Si, mon père, c'est un malade qu'on a opéré. Ah, oui, alors, c'est pas ton père, c'est un réfugié espagnol. J'ai dit, oui, mais un réfugié espagnol, c'est mon père. Et non, ici, il n'y a que des Espagnols qui ne parlent pas français. Alors, il n'y a aucun français. Ton père, il ne parle pas français. J'ai dit, non. J'ai dit, alors, c'est pas ton père, parce que toi, tu parles français. J'ai dit, bon, écoutez, mon père, on l'a opéré ici, et je viens le voir, je viens d'Orléans, où les Allemands sont en train d'arriver. Alors, avant qu'ils arrivent à l'hôpital, que je vois avec mon père ce que l'on peut faire. Et alors, évidemment, ils vont chercher l'infirmière et il arrive et dit qu'est-ce que c'est vous appelez Angelo? Ah, j'ai dit non, Angelo, non, Villarangel. Il dit ah, mais vous parlez français? Il dit oui, je parle français, je parle espagnol. Je l'ai appris à l'école. Il dit ah bon, alors ton père, qui c'est? J'ai dit c'est monsieur Villarangel. Non. Toi, Villarangel, ton père Villarangel, alors il y en a combien dans la famille? Elle m'a dit, j'ai dit, mais écoutez, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Je vous les expliquerai plus tard, mais dites-moi où est mon père, que je puisse le voir et parler avec lui. C'est un Angel Villar, il y en a un autre, c'est moi. Mais moi, je dis rien, amenez-moi là-bas. Alors il dit, mais où est votre monsieur Villar? J'ai dit, il est à la salle Perrin, puisqu'on m'a écrit, on m'a donné les notes de l'État. Il dit, ah bon, alors allez. Bien, bien. Et alors, je suis allé voir mon père, et mon père, quand il l'a vu, il était tout étonné de me voir ici. Il dit, comment ça se fait que tu es parti d'Orléans? Tu aurais été mieux à Orléans, parce qu'ici, on n'est pas bien, on est mal soigné, on mange mal et tout ça. Et quand on est soigné, après, on nous envoie dans les camps de concentration. J'ai dit, oui, mais moi, sans savoir où vous êtes, où sont les enfants, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que je fais, moi, le vagabond, à Perpignan? Je vais aller chanter avec Charles Trenet. Parce que ce moment-là, Charles Trenet chantait à Perpignan. Donc, j'ai dit, bon, et nous, on allait boire un café, puis on... Alors, il dit, ne parle pas comme ça, parce qu'ils ils vont te chasser. Ces gens-là, ils sont très sévères. J'ai dit, mais enfin, on peut parler à son père, non, en France. Alors, il dit, tais-toi. Laisse faire, parce qu'avec moi, ils sont très gentils, toi. Bon, alors après, elle vient et dit, bon, mais vous parlez français, hein? Et bien, comment vous parlez français? Votre père peut partir si veut, mais vous restez là. Parce que justement, c'est ce qu'il nous faut. On ne sait pas comment les soigner. Il n'y en a aucun qui parle français. Ils sont tous ou catalans ou madrilènes. C'est pas possible. J'ai dit, ne vous inquiétez pas. Si vous me laissez avec mon père, moi, je vous servirai d'interprète. Et à ce moment-là, la doctoresse, qui était une doctoresse polonaise, Mme Schacher, elle m'a dit... Toi, tu restes à la salle d'opération. Les autres qui fassent ce qu'ils veulent. Parce que le boulot de soigner les malades et tout ça était assez dur. Ils venaient l'après-midi en ambulance pour mourir la nuit. Et après la nuit, on les amenait à la morgue. Et là, à la morgue, les camions arrivaient avec des cercueils en bois, sans ni raboter ni rien. Hein. On les mettait dedans et on allait les enterrer dans un enclos où ils les mettaient tous ensemble, là, comme des blessés, quoi. Là. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et à ce moment-là, moi, quand j'ai vu que les choses s'arrangeaient comme ça, j'ai dit, bon, ben, il va falloir qu'on s'occupe des autres frères et sœurs. Parce que en Dordogne, on les avait mis dans un couvent. Et dans le couvent, on ne pouvait pas les avoir dans le couvent parce qu'elles n'étaient pas baptisées. Elles étaient pendant la guerre civile et qu'elles n'étaient pas baptisées. Alors, elles ne pouvaient pas être dans le couvent. Alors, on les mettait dans un endroit à côté et elles faisaient les bonnes du couvent. Elles nettoyaient, elles faisaient la vaisselle, elles allaient chercher du bois, elles gardaient les vaches et tout ça. Et elles sont restées là jusqu'à la fin, comme ça. Mais un jour, les pompiers de Perpignan, qui dirigeaient la résistance, ils faisaient un repas tous les samedis pour les réfugiés qui étaient, comme moi, employés à l'hôpital. Et on nous faisait une paella. Et, bon, alors, un jour, le responsable des pompiers, il dit non, tu n'es peut-être pas au courant, mais il y a... tous les enfants qui n'ont pas des parents avec eux vont être envoyés à Franco. Franco les a réclamés aux Allemands pour que les Allemands obligent les Français à leur remettre. Alors vous allez les perdre. À moins que tu pourrais t'arranger, puisque tu parles français, de pouvoir aller au couvent et puis t'arranger avec la sœur pour qu'elle puisse les baptiser. Et à ce moment-là, si elle les baptise, elle peut les garder au couvent et ils seront à l'abri. Et ça a été fait comme ça, jusqu'à là. Mais quand ça s'est passé, un jour, la police arrive, et le matin de bonne heure, il y avait mon père et moi, on était en train de faire la toilette dans le lavoir et tout ça. Alors ils arrivent, Monsieur Villard et Monsieur Villard, c'est vous? J'ai dit, oui, pourquoi? J'ai dit, pourquoi? Parce que tu vas nous suivre. J'ai dit, et pourquoi? J'ai dit, pourquoi? On va-t-elle expliquer pourquoi? Alors bon, ils nous amènent à la prison de Castillet. Et alors il dit, pour qui vous travaillez-vous? J'ai dit, nous, nous travaillons pour l'hôpital. J'ai dit, non, pour l'hôpital, non. Pour qui vous travaillez? Parce que vous allez toutes les semaines, on sait ce que vous faites. Hein. Vous allez manger des fruits à la gare, à chercher des camions qui partent vers l'Allemagne, vous mangez des fruits, mais vous ne faites pas que ça. Hein. Parce que vous allez chez les pompiers pour manger des paillas toutes les semaines. J'ai dit, oui, c'est un péché, j'ai dit, en France, c'est ça. J'ai dit, oh, j'ai dit toi, tu parles bien le français, mais tu as beaucoup de gueule, toi. Alors, calme-toi un peu, parce que autrement, on va t'interroger d'une autre façon. J'ai dit, oh, mais dites ce que vous voulez savoir, parce que nous, on ne fait que ça. Mon père est malade, moi, je suis venu le rejoindre, et puis nos enfants ne sont pas là. Alors, évidemment, quand on est parti, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, avec les pompiers, on ne fait que ça, que manger tout ça. Alors, il dit, non, monsieur, non. Les pompiers, dans les pompiers, il y a la résistance française. Et dans la gendarmerie, il y a la résistance française. Alors nous, la police, on est bien au courant de ça. Hein. Alors, ne nous raconte pas l'histoire, parce qu'on finira par le savoir. Et à ce moment-là, tu vas le payer très cher, toi. Toi, tu vas le payer très cher. J'ai dit, bon, faites ce que vous voulez. Moi je ne sais pas, ni quoi vous parlez de résistance. Vous parlez. Moi, toutes ces choses-là, on ne les voit pas de la même façon. Parce que nous, on a été malmenés, on a perdu la guerre, et on est prisonniers d'un côté, prisonniers de l'autre, et on fait que se déplacer et tout ça. Et bon, mais alors, on va pas. Alors, toutes les nuits, ils nous sortaient de la cellule, et ils nous interrogeaient, mais séparés. Et évidemment, quand il dit, nous, on sait que dans les pompiers, il y a des dirigeants de la résistance. Et j'ai les gendarmes aussi. Et toi, tu dois être au courant de tout ça. Parce que tu es très éveillé. Alors dis-nous-le, et vous allez partir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne peux pas vous dire que c'est qu'ils font. Et puis c'était vrai, hein, parce que moi, je ne savais pas qu'ils étaient dans la résistance. Bon, alors, à un moment donné, on entendait crier, tout ça, et puis, bon, avec une règle, ils te tapaient pour te faire la photo de face, etc. Et moi, je saignais facilement du nez, et alors je me remplissais de sang. Alors évidemment, quand je passais devant la cellule où il y avait mon père qui entendait l'autre qui criait, il croyait que c'était moi qui criais. Et oui, il me voyait sanglanter, et après on le faisait passer lui, et c'était pareil. Et après on a compris, il y en avait un qui était payé pour crier, mais c'était un policier. Et puis mon père croyait qu'il criait parce qu'il m'a battu, il ne me battait pas. Il m'a donné un coup, puis il se saignait un peu, mais bah, ils ne m'ont jamais battu. Et mon père non plus, alors j'ai dit, donc, il dit, demain, vous partez au camp de concentration. Hein? Et pourquoi? J'ai dit, parce que votre place n'est pas à l'hôpital. Dans le camp de concentration, vous serez mieux. Bon, à demain alors, à demain. Oui. Et ils sont venus nous chercher un fourgon de gendarmes. Et alors, dans le fourgon de gendarmes, il y en avait 8 qui c'était des gitans. Et à Perpignan, il y a beaucoup de gitans qui trafiquent avec les chevaux et tout ça, et qui font beaucoup de rouges. Et puis, il y en avait beaucoup d'arrêtés. Alors, il y en avait 8, et il y avait une séparation dans le fourgon, et puis une autre séparation, et après nous. Et alors, nous, on était 8, qu'on était dans la prison, là, qu'on avait arrêté. Il dit, vous allez avec nous au camp de concentration, on s'expliquera en chemin. Hein. Je ne veux pas vous voir parler avec les gitans. Hein. Et nous, on ne parle à personne. Alors, on était séparés comme ça. Ils nous ont amenés à la gare, et de la gare au camp de concentration de Barcarès. Et puis, ils disaient, dans le wagon, ils avaient séparé un wagon pour les deux, et eux, ils étaient au milieu. Alors, ils disent, ici, il y en a un qui parle français. Alors, nous, on voudrait bien savoir qui c'est. Alors, j'ai dit, il y en a beaucoup, il y a deux Français là, qui ne se parlent entre en français. Il dit, mais toi aussi, tu parles français, puisque tu me réponds. Alors j'ai dit, oui, mais moi je parle français parce que je l'ai étudié en Espagne. mais je ne suis pas français, je suis espagnol. Il dit, bon, ben, c'est pas ça, ne t'inquiète pas. On va descendre dans la gare, et eux, ils vont passer devant, et ils vont avoir vos papiers à vous. Ils vont aller au camp de concentration, et vous allez avec leurs papiers à eux, au camp de Tansy. Et comme ça, vous pouvez vous évader, essayer de vous en aller en Espagne, parce qu'autrement, vous partez vers l'Allemagne. Ils sont en train de faire des rafles dans toute la zone libre, et quand le camp sera complet, eh bien, on va vous expédier aux Allemands pour faire la défense de l'Atlantique. J'ai dit, bah, je sais pas ce que je vais défendre, on verra ce qu'on fait. Bon, il dit, alors vous n'avez qu'à la nuit, parce qu'à la nuit, nous, on change les enveloppes, avec votre enveloppe, ils vont partir déjà au camp de punition, et puis vous serez au camp de Tansy. Vous avez toute la nuit pour vous évader. Alors évidemment, mon père m'a dit, on ne peut pas s'évader. Si on s'évade, à ce moment-là, les enfants vont disparaître. Alors nous on ne peut pas. Qu'ils fassent ce qu'ils voudront. Bon, alors ils nous ont gardés là. Et on est resté jusqu'à la fin du mois d'août. Et à la fin du mois d'août, il a commencé à arriver des camions d'Espagnols qui raflaient dans toute la zone libre de Perpignan et tout ça. Et de là, ils nous ont envoyés vers ici, vers Bordeaux. Et c'est là qu'on est venu pour faire la base sous-marine. Voilà. Voilà le premier épisode.
Pour vous, que signifie le mot engagement ?
Pour moi, le mot engagement signifie ce que l'on a fait par obligation pendant la guerre d'Espagne. Parce qu'il fallait s'engager du fait que nous n'avions pas d'armée, nous n'avions pas d'armes, et puis on avait en plus le fait que les Français et les Anglais étaient contre les Espagnols républicains. Ils avaient fait les signes de la non-intervention. Ils ne voulaient pas intervenir parce qu'ils se disaient, si nous on intervient, les Allemands, ils vont à intervenir contre nous. Alors, ce sont les Espagnols qui sont de merde. Hein? Et puis nous, on verra comment ça se passe. Et alors, il y avait les Portugais, les Italiens, les Anglais, les Italiens, les Allemands, les curés et l'armée de Franco qui était là. Voilà. Alors, évidemment, nous, il fallait qu'on s'engage et on n'avait que nos possibilités personnelles, chacun. Hein? Parce qu'on n'avait ni armée ni rien. Alors, il y a des volontaires qui passaient, qui formaient les autres, mais c'était une formation. Moi je n'ai jamais tiré un tir avec un pistolet. Même. Alors, pourtant, j'avais un pistolet parce que j'avais le convoi d'autobus pour évader, mais j'avais un papier signé. Mais moi, je n'avais même pas d'arme. Pour moi, s'engager, c'est ça. C'est mettre en défense de sa patrie. Avec les possibilités qu'on avait les uns et les autres. Voilà. Et puis on a perdu la guerre, et puis après on a tout perdu, parce qu'on n'a on a pas pu revenir. Parce que si on revenait, on a été passé à la guillotine comme les autres. Voilà.
Après la Seconde Guerre mondiale, quelle forme a pris votre engagement ?
Après la première forme mondiale, après l'engagement de rébellion contre les Allemands, parce que les Allemands, c'est ceux qui avaient fait gagner la guerre aux fascistes espagnols. Et alors évidemment, notre mouvement à nous tous, c'était de se grouper dans des groupes, que ce soit socialistes, anarchistes ou communistes ou comme ça, mais faire des mouvements pour pouvoir aller contre les Allemands, à faire tout ce que l'on pouvait pour les nuire. Et c'est ce qui a fait que Bordeaux a été libéré en 1944, alors que Paris a été libéré en 1945. Et la libération de Bordeaux, ce sont les Espagnols, les FFI espagnols, qui l'ont dirigé. Et celui qui l'a dirigé, c'était le commandant Barbas, Eduardo Casado, qui dirigeait tout le secteur militaire, et puis nous, les autres qui étions enfermés dans la base sous-marine pour la construction et tout ça, mais qu'on faisait les sabotages. Alors moi, j'étais le directeur des coordinations de sabotages par groupe de trois, la troïka française. C'est-à-dire que moi, je vous connaissais à vous, et vous, vous le connaissez à lui, mais moi, lui, je ne le connaissais pas. Et quand ça se coupait, Moi, si on me parlait de lui, moi, je ne le connaissais pas. Alors lui, il connaissait l'autre, mais l'autre ne vous connaissait pas, vous. C'était sélectionné comme ça, par trois. Alors évidemment, on allait faire des sabotages dans le matériel, dans les constructions, dans tout ça. Et puis même dans les Allemands qui arrivaient sous la nuit et qu'ils voulaient jouer les Guillaume Tell et tirer ça à pistolet sur ceux qui travaillaient. Alors nous pareil, si on pouvait les pousser dans l'eau, on les poussait dans l'eau, puis c'est de merde. Hein. Ils arrivaient sous comme des Polonais. Comme on dit des Polonais, mais les Polonais ne sont pas tous sous. Quand il y aurait des Polonais, c'est pas bien.
Pourquoi avez-vous choisi de vous battre pour un pays qui n'était pas le vôtre?
En quelque sorte, c'était le nôtre, puisque c'est la France qui nous a ouvert les portes pour pouvoir partir de l'Espagne, où tout ce qui était républicain passait à la guillotine. Alors, pour nous, c'était la France qui était devenue notre pays, mais pas la France qui avait signé la non-intervention, la France des Français. Ils avaient leur groupe aussi et qui nous défendaient comme ils pouvaient. Alors, c'est pour ça que nous, on s'est dit, bon, tant que Franco est vivant, parce que contre Franco on n'avait rien, on va rester comme ça. Parce que quand en 1944, on a libéré la Gironde, nous, les Espagnols et beaucoup de Français volontaires, qui étaient des volontaires, mais qui étaient militaires et qui savaient. Ils savaient mener les armes mieux que nous. Et puis nous, les résistants de la montagne, qui étaient formés déjà depuis le temps qu'ils étaient là, 3 ans, qui donnaient des torts à répondre aux Allemands et puis même aux Français de Vichy. Parce que nous, les Français de Vichy, pour nous, c'était de la santé. C'était de la merde pour nous. C'était pas les Français. Alors évidemment, quand on a gagné quand même la bataille, parce que les Allemands ont été obligés de partir. Et c'est à ce moment-là que Pablo Sánchez a été tué, parce que le pont de pierre était miné pour le faire sauter. Et quand les Allemands auraient traversé tout ce qui arrivait de Paris pour aller vers le Verdun ou vers l'Espagne, à ce moment-là, il fallait faire sauter le pont. Alors M. Casado, le commandant, il savait que moi, j'étais le chef du groupe de distribution de sabotage, il m'a convoqué. Une nuit, bon, on s'est trouvé, il va falloir que l'on trouve la possibilité de que quelqu'un puisse passer un dynamiteur pour couper les charges du pont de pierre. Est-ce que tu es au courant de ça? J'ai dit, moi, je suis à la Bastide, à la caserne Niel, je ne sais pas où on rentre, par où on sort. Du côté de la Bastide, mais du côté de Bordeaux, non, parce que là, il y a la police française, la police de Vichy, et c'est eux qui gardent tout ça. Il dit, bon, mais tu peux le faire rentrer par là. Je dis, oui, alors, comment on fait? Je dis, ne t'inquiète pas, tu viens me voir, et puis on passe tout ça, et on le fait rentrer. Et alors, il est rentré sous le plancher, et quand il a coupé toutes les charges, il est sorti par la place du pont. Et alors il a levé les bras, comme ça y est, on a gagné, on a entendu ta 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 ta. Il y avait un Allemand qui était resté pour appuyer sur la décharge. Et alors lui, il a balayé, il a tué, et c'est là qu'il est mort. Parce qu'il il saignait de partout comme une passoire. Et il y a une dame qui habitait en face du cours Victor Hugo, qui est descendue avec des couvertures, ils l'ont enroulé là, ils l'ont mis dans son portail, et de là est parti l'enterrement de la plaque que je vous ai laissée. Qui détermine tout ça. Voilà.
En vous engageant dans la résistance, vous avez pris le risque de mourir. Vous n'avez jamais eu peur?
Avoir peur de mourir, non, parce que nous, on ne pensait pas qu'on se donnait de cette façon-là. Hein. On pouvait mourir. Mais la peur, ça se perd entre les uns et les autres. Parce que tout le monde vous encourage. Et puis vous savez quand même que vous avez de la défense. Hein. Donc quand on savait qu'il y avait un danger, eh bien, nous, on s'arrangeait parce qu'à la place Mediadec, là, il y avait un restaurant de Majorque qui avait un restaurant là. Et chez lui, on se réunissait, on mangeait tout ça. Et puis on savait qui c'est qui pouvait venir et qui étaient les policiers qui, Et puis nous, on était là, on mangeait, et on partait. Et mon père, il a dit, bon, bah, écoute, on va faire une chose, parce que si on nous arrête tous les deux, les enfants, c'est foutu, ils disparaissent. Alors, il faut qu'il en reste un de deux. Alors moi, je vais aller dans la forêt pour couper des bois, et toi, tu restes à Bordeaux. Mais ne reste pas là, ne reste pas à la caserne Daniel. Tu te bats comme font les autres, et tu te mets dans les groupes, et on se verra toujours, avertis pas les uns ou les autres, pour se réunir et voir ce que l'on peut faire. Et puis à la place Mériadec, on avait la résistance. Et il se trouve qu'un des chefs de la résistance, il était rue Hugla, sur le cours Vittorio. Et alors il est venu me voir à la base sous-marine, la nuit. Parce que les Allemands, ils ont dit tu, Arbeit, Deutsch. Nein, ja. Du Arbeit, Deutsch. Nicht viel. Pas beaucoup, nicht viel. Gut. Du Arbeit, Deutsch. Du hier, telefonier. Pour téléphoner la nuit. Parce que quand le téléphone était mené par des Allemands, des sous-églistes qu'on appelait nous, en uniforme. Et alors elle téléphonait pour qu'on éteigne la lumière de la base et qu'on arrête le moteur et tout ça. Alors évidemment, comme il n'y avait pas de personnel, parce qu'il commençait à partir vers la Russie, parce que les Russes ils commençaient à donner à Stalingrad, du coup. Alors il dit, oh, du hier, Fräulein Lautzi, hier, Spanier, Flieger Alarm, Avion anglais passé pour bombarder. Et tout, Flieger Alarm, tout Luftgefahr, alles kaputt. Alors moi, il fallait que je coupe la lumière, et moi je coupe tout. Alors évidemment, je coupais tout, je coupais même les motopompes. Et dans les motopompes, il y avait des Espagnols et des Français, tout ça, qui travaillaient à la pression. Tous ceux qui s'évadaient, on les faisait travailler dans les tubes. Et les tubes, c'était pour faire passer les bus de béton. Et puis, il y avait la pression qui chassait l'eau. Alors, quand ça s'arrêtait, l'eau montait et... Moi, j'ai la responsabilité d'avoir au moins noyé 17. Mais moi, ça, je ne le savais pas. Et alors, quand je leur ai dit, j'ai dit, non, moi, c'est fini, ce travail-là, c'est fini. Ils disent, non, mais ça, ce sont des choses qui peuvent se passer. Mais ne t'inquiète pas, c'est comme un accident. Il vaut mieux un accident que de perdre tout le reste. Alors, ce que l'on va faire, c'est que le câble des transformateurs, tu vas les passer dans une lumière de, pour que les pompes fonctionnent dans les tubes, mais pas tout le reste. Et alors nous, on les sabotait comme ça. Alors, un jour, j'étais en train de contrôler les câbles qui chauffaient beaucoup, et j'étais sur une chaise comme ça. Et alors, il rentre en allemand, un officier, « Spanier, tu... Tu fais la poule. » Basse, si. Barum, et je contrôlais. Contrôlais. Alors, il me prend par le bras, il me fout en l'air, là, de la chaise, parce qu'il fallait 50 cm d'isolation pour le béton. Et alors, évidemment, quand il m'a fait tomber, moi, il dit, Spani, une lampe, hier, porte-moi une lampe. Moi, je tape une lampe et je lui donne. Je savais que s'il mettait la lampe, il allait tout faire sauter. Parce que la lampe, c'était 200 mètres et la puissance, c'était 350. Alors, j'ai dit, moi, je fais la poule, mais lui, il va faire la friture. Et alors, évidemment, il a mis la lampe, ça fait tchoum. Mais alors, l'éclair nous a projeté contre le mur, l'autre Allemand qui était avec lui, et puis moi. Et puis après, on avait les yeux tout ensanglantés de l'éclair. Et puis on s'est amené à l'hôpital. Et on a fait des choses comme ça. Mais c'est tout. On n'avait pas peur du danger, parce que le danger, c'était justement la peur. D'avoir peur et de vouloir leur faire croire qu'on faisait quelque chose de mal. Nous, quand on faisait comme ça, on disait toujours que c'était eux les saboteurs. Tout sabotage. Parce qu'ils portaient des rouleaux de câbles qui venaient d'Allemagne. Et alors nous, on les sciait avec une scie fine pour qu'avec un peu de farine et du goudron, l'eau pénétrait quand même. Et quand on les enterrait à 80 cm, après, l'eau monte. Et quand l'eau monte, il passe la ville, et alors les câbles, ils pètent parce qu'il y a, les quatre bornes. Sabotage, sabotage. Espagne, hier, sabotage. Non. Deutsche sabotage. Warum? Les Allemands font le sabotage. Ja. Hier, fabriqué en Deutschland. Nicht Bordeaux. Pas, on ne fabrique pas de câbles, nous. Ils viennent d'Allemagne. C'est là-bas qu'ils sont sabotés. Alors, nous, n'en est pas nous. En plus, qu'on travaille pour vous, n'en est pas nous casser les pieds. Non alors, on dit, sabotage, Deutsche? Alors, et l'autre soir, il y en a un qui arrive. C'était la nuit, mais ils étaient sous, tous les deux. Alors, il y a un espagnol. Il dit, basse, hurle. Non, ils arrivent. Espagne, Austin. Alors, je vous dis, basse, vous voulez dire, Espagne, ich Guillaume Tell. Was sagst du? Ich Guillaume Tell. Camarade, ich nicht gut. Témoignage. Alors, il dit, là, il y a une lampe. Il me demande une lampe, je lui donne une lampe avec le câble. Il la met à son copain sur la tête, il l'attache à vos oreilles, il la met à 100 mètres, il sort le pistolet, et poum. Hé, camarade, Espagne. Lampe capote. Il dit, ya, lampe capote, camarade capote. La balle est hier. Il avait mis la balle dans le front, alors il est tombé, la lampe s'est tombée aussi. Alors l'autre, il a jeté le pistolet, puis il est parti en courant, il a disparu, et ils sont venus le chercher, et puis des choses comme ça. Alors, c'est pour ça que, quand on a traîné des choses comme ça,
on ne connaît pas. Que pensez-vous du monde d'aujourd'hui ?
Le monde d'aujourd'hui, je pense qu'il est, assez mal orienté, parce que... ça va dans une voie assez triste, où l'on veut aller plus loin que l'on ne peut aller, et il y en a très peu qui veulent suivre. Alors évidemment, il manquera toujours du monde pour suivre un bon chemin. Alors on n'arrivera jamais à se sortir de tout ce que l'on doit faire pour que ça aille bien, parce qu'évidemment, que ce soit l'Espagne, que ce soit un autre pays, il y a des riches et des pauvres. Et des très riches et des très, très pauvres. Et puis ceux-là, on ne vient pas en aide parce que ça coûte de l'argent. Les autres, c'est l'argent qu'eux donnent, qu'ils travaillent avec. Alors évidemment, moi, je ne suis pas dans ce contexte. Si on peut faire de sorte qu'on s'aide les uns aux autres dans ceux qui ont du besoin, de la nécessité, très bien. Mais pour le reste, non, parce que malheureusement, la politique vit de toutes ces choses qui se disent, mais qui ne se font pas. Et alors, ça sera toujours pareil, ça continuera à être pareil. On le voit bien avec la France. Et on le voit bien avec l'Espagne, encore pire.
Merci. Merci beaucoup, Angèle Villard, de nous avoir accordé de votre temps pour répondre à nos questions.
Vous êtes très gentil. C'est moi qui vous remercie.
Merci.